Nous voulons, Seigneur, rester dans ta présence et recevoir ta parole depuis ta présence. Merci pour ce temps merveilleux, cette opportunité, Seigneur, que tu nous as accordé de nous approcher de toi, d'aller à ta rencontre, ô Père, pour entrer dans ton palais céleste où tu trônes à majesté, afin, Seigneur, d'avoir un dialogue franc avec toi, afin de t'exprimer, Seigneur, nos sentiments, te dire combien tu es merveilleux, combien tu es bon, combien tu restes et demeures le seul, l'unique, le véritable Dieu, que ça soit là-haut, que ça soit dans tout l'univers, que ça soit ici-bas. Merci de nous avoir accueillis favorablement dans ta présence, mais aussi d'avoir accueilli, Seigneur, notre louange, notre adoration, nos cantiques, nos chants. Nous nous sommes réjouis devant toi, Seigneur. Nous avons tout fait en ta présence et nous t'en remercions sincèrement. Et maintenant, Seigneur, alors que le moment arrive de te tendre une oreille attentive pour recevoir ta parole, nous voulons y rester. Rester dans ta présence. Seigneur, laissez ton esprit poursuivre ce travail en chacun de nous. Laissez ton esprit nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Oui, que ta parole soit pertinente ce matin. Qu'elle puisse nous communiquer la vie dont nous avons besoin. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Bien, nous allons continuer une fois de plus avec notre message concernant notre Père et cette nécessité, cette importance vitale de nous approcher de lui, non pas pour nous arrêter au seuil des portes de son palais céleste, mais plutôt pour entrer dans son palais céleste et nous tenir devant le trône de la grâce. Et donc il est important, mes amis, que nous puissions savoir comment se présentent ces demeures du Dieu vivant. Il est donc important que nous puissions avoir une certaine idée quant à l'environnement, quant à l'atmosphère électrisée, flamboyante, glorieuse, qui règne là, dans le palais céleste, dans la salle du trône, dans le Saint des Saints, dans la maison même de notre Père. Et la fois dernière, c'était le septième épisode, aujourd'hui c'est donc le huitième, toujours en ce qui concerne l'entrée du lieu secret. C'est très très important, mes amis, car nous pouvons expérimenter pleinement notre raison d'être ici-bas, et même là-haut, mes amis, que si nous demeurons, nous apprenons à nous approcher de Dieu pour entrer dans sa présence et avoir, mes amis, une communion intime avec lui, et construire un dialogue comme nous l'avons vu, et lui parler avec des mots qui jaillissent de notre cœur, lui parler en cohérence avec ce qu'il est pour nous, à savoir notre Père, et par conséquent lui parler comme ses enfants, mais aussi lui parler en cohérence avec ce que nous sommes pour lui, à savoir ses enfants. Alléluia. Il n'est pas là pour nous charger de ceci ou de cela, mais il est là pour nous accueillir favorablement en sa présence par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui est notre souverain sacrificateur, celui qui se tient devant lui et qui intercède pour nous. Jésus-Christ, notre avocat. L'entrée du lieu secret, huitième épisode. Nous allons relire une fois de plus Matthieu 6, les 9 premiers versets. Nous lisons. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous l'ai dit, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne soit sanctifié, ainsi de suite. Amen. Et gloire au Seigneur. J'aimerais rappeler à chacun de nous que les moments les plus précieux, les plus extraordinaires, les plus merveilleux, les plus splendides, sont ceux que nous passons avec le Seigneur et dans sa présence. C'est donc dans sa présence que nous assumons pleinement notre vocation, que nous assumons pleinement, que nous réalisons pleinement, mes amis, notre raison d'être ici-bas, notre raison de vivre. Il nous a créés pour lui et pour lui seul. Il nous a fait à son image. Il nous a dotés de toutes sortes de compétences, morales, spirituelles, physiques ou autres, pour que nous apprenions, mes amis, à nous approcher de lui. Il est vrai que nous sommes tous nés dans le péché, par conséquent, nous ne pouvions pas, en étant dans cet état, l'approcher et espérer avoir une communion avec lui. Mais dans son amour et dans sa grâce infinie, il nous a visités par Jésus-Christ. Jésus a payé le prix de notre rachat, le prix de la réconciliation, et depuis, eh bien, le contact a été rétabli. Seulement en Jésus et en Jésus seul. Alléluia. Et maintenant que nous sommes en Christ, maintenant que son esprit habite en nous, eh bien, c'est que le Seigneur attend de nous, et c'est sa grande attente par rapport à tous ses enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge spirituel, quelle que soit la place qu'ils occupent dans le corps du Christ, à savoir l'Église, ce qu'il attend de chacun de nous, nous qui sommes ses enfants, c'est que nous apprenions à nous approcher de lui, que nous apprenions à aller à sa rencontre pour être en communion avec lui, pour lui rendre ce qui lui est dû de toute éternité. Alléluia. Mais cette approche de Dieu, ce processus qui nous amène à entrer en communion, mais alors dans une communion intime avec lui, répond à des règles, répond à des vérités que nous avons examinées et que nous examinons depuis pas mal de temps. Et le dimanche dernier, nous sommes arrivés donc, après être passés par l'antichambre, après être passés par la salle d'attente, car la communion avec le Seigneur, la rencontre avec notre Père nécessite, mes amis, une préparation en amont. On ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas entrer dans sa présence comme ça, comme par hasard, pas du tout. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas donné tout de suite les paroles du Notre Père, dit voilà comment vous devez prier. Il a commencé par montrer à ses disciples que le chemin qui conduit notre cœur vers le trône de la grâce, le chemin qui conduit notre vie vers, mes amis, notre Père, eh bien passe absolument par ce que nous avons appelé l'antichambre. Et puis ensuite, lorsque nous sommes prêts, alors les portes éternelles de son palais royal, les portes éternelles de sa demeure glorieuse s'ouvrent devant nous. Et que voyons-nous? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du voile? Qu'est-ce qu'il y a, mes amis, dans cette demeure? Voilà la grande question. Eh bien, à cette question, la Bible seule a la réponse. Et nous trouvons à travers la parole de Dieu quelques indications, quelques révélations qui nous montre comment se présente la demeure du Dieu vivant, comment se présente ce lieu que nous appelons le lieu secret, ce lieu qui abrite le trône divin, sur lequel il est assis et à partir duquel il étend son règne dans tout l'univers. Alléluia. Nous entrons enfin dans ce lieu unique, ce lieu majestueux, ce lieu glorieux, ce lieu avec un environnement, mes amis, qui défie l'intelligence humaine, avec un environnement qui nous est décrit par ceux qui ont eu l'occasion d'entrer ou de faire des expériences, d'être enlevés et d'avoir eu l'opportunité de contempler, eh bien, ils nous ont décrit, et nous allons encore le revoir aujourd'hui, un environnement extraordinaire. Alléluia. Il y a le trône, et sur ce trône, il y a quelqu'un. Alléluia. Et autour du trône, il y a des réalités extraordinaires. Le trône de la grâce, son environnement, son atmosphère flamboyante, brillante, lumineuse, le trône de la grâce sur lequel notre Père est assis, environné, mes amis, de toutes sortes de lumières, d'éclairs, un environnement éclatant, flamboyant, car il y a du feu qui brûle. Impossible qu'une créature simple puisse approcher ce Dieu-là. Quelque part, il est même dit qu'il est un feu dévorant. Où trouver ces informations? Évidemment, dans la parole de Dieu, dans les saintes écritures, où nous trouvons des vérités, où trouvons des révélations concernant ces lieux uniques, ces lieux qui est la demeure même de notre Père, ces lieux où se trouve le trône qui est souverainement élevé au-dessus de tout l'univers, au-dessus de tout. Et ces révélations sont là pour nous permettre d'avoir une certaine idée. Car il est important de réaliser dans quel environnement nous révéler l'environnement, l'atmosphère qui règne dans la présence, dans la maison de Dieu, afin que nous ayons une certaine image, une certaine vision de ce lieu, afin que nous puissions avoir enfin accès à ces réalités spirituelles insondables qui sont au-delà de toute imagination, au-delà de la raison humaine. Et ces révélations consistent donc en des visions célestes, des expériences spirituelles que quelques rares personnes ont eu à faire, des personnes dont il est question dans la parole de Dieu, à savoir dans la Bible. Et nous trouvons donc, au travers de toutes ces visions, à partir de toutes ces expériences que ces gens ont faites, notamment le prophète Ézéchiel, des descriptions nombreuses concernant la salle du trône, concernant, mes amis, ces lieux uniques, singuliers, glorieux, majestueux, concernant la réalité, l'environnement, l'atmosphère qui règne là-haut. Avant d'aller plus loin, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un autre homme qui a eu cette grâce de voir, de recevoir une vision du trône de la grâce, j'aimerais ici faire une mise en garde. Une mise en garde à propos des expériences vécues par certains personnages bibliques, comme notamment Ézéchiel, nous l'avons vu. Il fut enlevé en esprit, et puis là, il contempla des réalités extraordinaires concernant le trône du Dieu Tout-Puissant, comme Ésaïe, comme l'apôtre Jean, etc. Il y a une mise en garde. Toutes ces descriptions glorieuses concernant la demeure de Dieu, concernant, mes amis, la réalité autour du trône de la grâce, ces descriptions telles que rapportées par ces personnes qui ont fait ces expériences, des expériences qui nous ont laissé dans la parole de Dieu, Eh bien, tout cela ont été écrites pour soutenir notre foi, pour nous permettre d'avoir une idée, une certaine vision de la réalité au-delà du, comment, du voile. Donc, c'est pour soutenir notre foi et certainement pas pour nous encourager à courir après des expériences mystiques. Ézéchiel, comme tant d'autres qui ont fait ces expériences, n'ont jamais pris du temps, soit dans le jeûne, dans la prière, ils ne se sont jamais retirés quelque part et se sont mis à prier afin que le Seigneur puisse les enlever et leur montrer comment les choses se présentent devant le trône de la grâce. Pas du tout. Ces visions présentées par les Saintes Écritures sont là, mes amis, pour que par la foi, alléluia, par la foi, nous puissions nous projeter dans ces réalités spirituelles sans pour autant chercher à vivre à notre tour les mêmes expériences. Vous pouvez mourir pour rien. Oh, je voudrais faire l'expérience de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Moi aussi, je voudrais voir à un certain moment le ciel s'ouvrir et contempler l'agneau assis sur le trône. Et pour cela, je me lance dans le jeûne, dans la prière. Pour cela, je me retire quelque part. Mes amis, vous risquez de mourir. Aucun des personnages concernés n'ont eu à faire une quelconque démarche. C'est Dieu seul qui, dans sa souveraineté, les a pris et les a amenés jusque devant, mes amis, le Saint des Saints Célestes, devant le palais royal. Et là, il leur a ouvert les yeux, évidemment spirituels, et ils ont pu enfin contempler ces réalités. Et ils ont écrit ces choses pour notre édification, et non pas pour susciter en nous une certaine curiosité mystique. Ni Ézéchiel, comme je viens de le dire, ni Ésaïe, comme nous allons le voir, ni Daniel, comme nous le verrons, ni l'apôtre Jean, eh bien, personne de ce genre-là n'a eu à jeûner, n'a eu à prier, à faire des retraites spéciales pour vivre ce qu'ils ont vécu. C'est Dieu à un certain moment de leur vie, et souvent dans un contexte de crise, souvent dans un contexte difficile, que le Seigneur, eh bien, les a pris pour le faire entrer dans une dimension qui est donc au-delà, et ensuite, il leur a accordé cette grâce, mes amis, ce privilège immense d'expérimenter des choses hors du commun. Et c'est ce qui est arrivé, comme nous l'avons vu le dimanche dernier, c'est ce qui est arrivé au prophète Ézéchiel. Alors qu'il était en exil avec d'autres juifs en Babylonie, et là, ce jour-là, quelque chose va se passer, alléluia. Cet homme va avoir cette grâce particulière, va avoir cet immense privilège, mes amis, de contempler le trône divin et de voir comment il se présentait. Il a eu l'occasion d'approcher un tant soit peu l'atmosphère flamboyante, brûlante, glorieuse, incandescente qu'il y a, qui règne là, dans le palais de notre Père. Alléluia et gloire au Seigneur. Quatre personnes que nous allons consulter et qui vont nous décrire ce qu'ils ont vécu. Tout cela, mes amis, pour que nous comprenions ce qui nous attend lorsque nous cherchons à approcher celui qui est notre Père. Alléluia. Et à travers la vision d'Ézéchiel, nous avons donc vu que la gloire entoure notre Père. Alléluia. Il est environné d'un éclat étincelant. Il y a des lumières qui brillent plus que des éclairs. Il y a du feu. Tout rayonne autour de lui. Oh, alléluia. Tout rayonne, mes amis. Et face à cette réalité terrible, eh bien, cet homme est tombé. Eux tous, d'ailleurs, nous verrons, quand ils ont approché cette réalité extraordinaire, terrifiante pour eux, tous ont réalisé qu'ils étaient indignes d'approcher celui qui est assis sur le trône. Non seulement l'approcher, mais aussi ne serait-ce que sentir l'atmosphère qui règne autour de lui. Éclat étincelant. Lui-même l'a dit, nous l'avons vu la fois dernière, dans Ézéchiel chapitre 1er. Alléluia. Étincelant. Une lumière ayant l'aspect du feu, ça brûle. Tout est brillant. Tout est glorieux. Tout est majestueux. Mes amis, quand on arrive là, il n'y a plus de place en nous à autre chose que l'ambiance, que la vision du trône de la grâce et de celui qui est assis là-dessus. Alléluia. Voilà donc ce que nous avons vu concernant Ézéchiel. La lumière ayant l'aspect du feu, une atmosphère brillante, flamboyante, tout autour du trône. Tout rayonne, mes amis. Pour avoir une idée, prenez toutes les étoiles de l'univers. Déjà avec notre soleil, à midi, en certaines périodes de l'année, vous ne pouvez pas regarder le soleil comme ça, tout de suite vous êtes ébloui, oui ou non? Alors prenez toutes les étoiles de l'univers. Il y a des milliards et des milliards et des milliards. Vous les mettez ensemble. Même ça ne pourrait pas équivaloir l'intensité, la brillance de la lumière qui environne le trône divin. Oh, alléluia. Oui, la lumière. Dieu est lumière. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'Ésaïe. Nous allons voir comment lui aussi a eu cette grâce alors qu'il était parti ce jour-là au temple pour rencontrer Dieu. Il en avait l'habitude, c'était un juif, c'était un hébreu. Mais ce jour-là, quelque chose va se passer. Le fils d'Amos va faire une expérience qui nous a laissé au sixième chapitre de son livre. Il va recevoir une vision du trône divin. Et là aussi, lui aussi en parle. Vous voyez, chacun essaie de décrire ce qu'il a vécu à partir de ses propres mots. Personne ne peut, aucun d'eux n'a eu une vision totale et entière de la manière dont les choses se passent là-haut. Chacun, dans ses limites, a pu voir un aspect. Alléluia, vous êtes toujours avec moi. Ésaïe chapitre 6. Il pouvait même se souvenir, mes amis, de la période de l'année où il avait eu la grâce de faire cette expérience. Il a eu un ministère qui s'est allé sur plusieurs dizaines d'années, plusieurs rois, je crois à peu près 5. Mais là, il se souvient. C'est donc une expérience qui l'a marqué à tout jamais, qui a révolutionné son ministère. Et nous lisons, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, littéralement sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple ou le hekal, c'est-à-dire le lieu saint. Des séraphins, dont une catégorie d'anges, se tenaient au-dessus de lui. Dans la première vision d'Ézéchiel, il n'a pas parlé des séraphins, mais il en parlera plus tard. Voyez-vous? Alors, des séraphins se tenaient au-dessus du Seigneur. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Kadosh, Quand on lit ça en hébreu, hein,
Kadosh,
Saint, 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 et le Seigneur des armées, ou l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise du charbon ardent, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Et Esaïe répond, « Me voici, envoie-moi. » Gloire au Seigneur. Lui aussi, ce jour-là, alors qu'il ne s'y attendait le moins, alors qu'il fréquentait régulièrement le temple, là, Jérusalem, ce jour-là, quelque chose va se passer. Comme à l'accoutumée, il est entré dans le lieu saint, le Hékal. Vous voyez le temple, divisé, vous aviez le parvis, vous avez le lieu saint, et puis le lieu très saint. Il était dans le lieu saint. Dans le Hékal. Et puis là, tout d'un coup, ses yeux spirituels s'ouvrent. Tout d'un coup, il a devant lui une vision extraordinaire. Une vision magistrale du Dieu de la Bible. C'est Dieu qu'il a eu à servir. Lisez les cinq premiers chapitres, vous allez voir que c'est un homme qui avait quand même un certain sens du sacré, un certain sens de la justice, de la sainteté de Dieu. Il a eu à dénoncer le mal. Il a eu à crier malheur à toutes sortes de personnes qui vivaient dans le péché. Des voleurs, des corrompus, des idolâtres, des ivrognes, voyez-vous, des gens qui couraient plus après les biens de ce monde plutôt qu'après la parole de Dieu. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison. Ah oui, il serait là aujourd'hui, il dirait la même chose. Hein. À ceux qui ajoutent maison à maison. On en a trois, on trouve que ce n'est pas assez. Il faut une quatrième maison. Il faut une cinquième. Tout ça pourquoi? C'est de la vanité. Ensuite, malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour rechercher des liqueurs fortes. Ceux qui traînent la nuit, échauffés par le vin. Des soulards, des ivrognes. Les disciples de Bacchus. Malheur à vous! Malheur à ceux qui tirent le mal avec les cordes du vice, qui se plaisent dans le mal. Malheur, il avait raison de dénoncer tout cela. Il avait raison, mes amis, de mettre le doigt là où il fallait. Quatrième malheur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Eh oui! Aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes appellent bien ce qui est mal, la confusion, ce qui est terrible. Et cela me sidère. Quand on sait que pour certaines personnes, il y a des notoriétés publiques, qu'ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière, que ce sont des immoraux, des adultères invétérés. Quand on sait, et cela est des notoriétés publiques, que ces gens sont parfumés d'orgueil, sont remplis de hauteur, eh bien, ils sont le premier à parler des antivaleurs. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'ils savent, ils connaissent ce que cela veut dire? Alors qu'ils sont eux-mêmes une illustration parfaite des antivaleurs. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents. Et enfin, sixième malheur, verset 22, vous trouverez tout ça au chapitre 5, hein. Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin. Il devait y avoir un problème d'alcoolisme incroyable.
Oui.
Les brasseurs, peut-être des entreprises brassicoles avaient compris que l'alcool est un véritable lubrifiant social. Mais en tout cas, ça a été un problème. Il a eu à dénoncer cela. Mais ce jour-là, lorsqu'il entre au temple, lorsque le Seigneur lui apparaît, ou du moins il lui ouvre les yeux spirituels, et qu'il contemple le Seigneur assis sur son trône très élevé, alors il réalise qu'il n'était pas différent de ceux qu'il a eu à condamner à cause de leur travers, à cause de leur vie dissolue. Vous voyez? Malheur, cette fois-ci, à qui? Malheur à moi. Vous voyez ce qui arrive quand on reçoit la vraie vision du trône de la grâce. Vous voyez ce qui arrive lorsqu'on est en contact, lorsqu'on respire un tout petit peu l'atmosphère, l'oxygène qui règne là-haut, l'atmosphère qui règne là-haut, on ne peut que réaliser sa misère spirituelle. On ne peut que réaliser la noirceur de sa nature. Avant d'aller plus loin, très rapidement, le contexte. C'était un temps de bouleversement sur le plan international. Il y avait deux grandes puissances. Au nord, il y avait la Syrie, qui était une puissance dégradante, qui perdait de plus en plus son lustre. Et au sud, il y avait l'Égypte. Et Israël se trouvait entre les deux. Vous voyez? Et malheureusement, au lieu de continuer à croire, à s'appuyer sur le Seigneur, ils vont se laisser aller à leur travers, etc. Et nous sommes donc à l'époque du roi Ozias. Il faut savoir que cet homme a eu un règne long et prospère. Il a très bien commencé, mais il va très mal finir. En cela, la Bible a encore raison lorsqu'elle dit « la fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». Quand vous allez voir cet homme dans son commencement, quand il est monté sur le trône de Juda, eh bien vous allez voir que tout de suite il avait compris la nécessité de travailler avec Dieu, d'être conduit par Dieu. Il avait compris que seul, avec ses épaules, il était incapable de diriger le peuple de Juda, le peuple de Dieu, le royaume de Juda. Voyez? Mais avec le temps, voyez, c'est ça, hein? À un moment, on s'appuie sur le Seigneur, on s'attend en lui, on a besoin de lui, on sait qu'on ne peut rien faire sans lui. Mais le temps passant, on acquiert, voyez-vous, une certaine expérience. Avec le temps, ben, on arrive à croire que, bon, avec l'expérience qu'on acquise, avec les compétences qu'on a acquises, on peut maintenant se passer de Dieu. Non! Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Il avait très bien commencé. Mais cet homme, à la fin de sa vie, va mourir de lèpre. Vous vous rendez compte? Il va être frappé par la lèpre. Lui, le roi, avec un règne rayonnant au début, va terminer, mes amis, comme lépreux. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, cet homme, dans son orgueil, dans son arrogance, complètement obnubilé par son ego surdimensionné, son ego hypertrophié, cet homme va vouloir exercer des fonctions qui étaient réservées seulement et uniquement aux sacrificateurs. Il va pousser trop loin sa folie. Quelle mouche l'avait-il piqué? Oui, la mouche de l'orgueil. L'abeille de l'arrogance. Il est entré au temple, il a pris l'encensoir. Pour essayer de faire quelque chose auquel Dieu ne l'avait jamais destiné. Attention, Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Dieu n'a pas besoin aujourd'hui de se lever et de dire « Seigneur, j'estime qu'il n'y a pas assez de pasteurs. Je vais t'aider en devenant pasteur. » Attention, Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Si tu n'as pas été appelé, reste assis. Contente-toi de la place qu'il t'a assignée dans son corps. Car aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunistes. Aujourd'hui, mes amis, les ministères sont bradés. Quelqu'un se réveille du jour au lendemain, il devient prophète. Quelqu'un m'a partagé un témoignage, une fille qui était ici, et puis je ne sais pas comment, elle est entrée en contact avec un prophète qui s'est vissé dans les environs. Elle a quitté l'église, elle est partie. Au bout de quelques temps, ce soi-disant prophète est tombé dans des péchés abominables. Adultère, tout ce que tu veux. Finalement, il s'est retrouvé sans personne. Vous voyez, faites très attention. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Que de prophètes autour de nous, oui ou non? Je crois que parmi nous, il y a des vrais prophètes. Mais les vrais prophètes ne passent pas leur temps pour être reconnus comme prophètes. C'est ce que Dieu fait en eux. C'est ce que Dieu fait à travers eux qui montre qu'ils ont reçu cet appel. Quand quelqu'un veut foncièrement être reconnu comme prophète, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est Dieu qui donne la reconnaissance. C'est Dieu qui démontre à la face des autres qu'il nous a vraiment appelés au ministère prophétique. Non, des prophètes partout. Des pasteurs partout. Eh oui, le ministère attire de plus en plus. Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs ont créé une sorte de bourgeoisie. Oui ou non? Eh oui. Une sorte de classe à part, où on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour gagner de l'argent. Alors tout le monde veut justement intégrer cette bourgeoisie. Eh bien, c'est vraiment à l'opposé de ce que la parole de Dieu enseigne. Paul, l'apôtre, Jean, l'apôtre, et tant d'autres n'avaient pas constitué une sorte de bourgeoisie. Au contraire, ils sont entrés, mes amis, dans une vie d'épreuve, dans une vie où ils n'ont été que méprisés, où ils ont été traqués comme du gibier. Voyez-vous, c'est vrai que les époques ont changé. L'évangile est prêché ici chez nous depuis de nombreuses années. La mentalité a changé, mais malheureusement, l'ennemi est arrivé à nous distraire. Voyez-vous, au point aujourd'hui, il y a une bourgeoisie qui s'appelle la bourgeoisie prophétique, prophético-pastorale. Alors tout le monde voudrait profiter même des miettes qui tombent. Alors on se lève. On commence par une petite cellule. Et dans la cellule, on manipule un peu les gens à coup de prophétie ou de vision. Et puis après, le Seigneur m'a dit ceci, cela, et puis on va ouvrir une église. Résultat, on n'a jamais eu autant d'églises à Kinshasa. Autant de lieux de prière comme il y en a aujourd'hui. Et jamais on a vu, mes amis, notre ville de Kinshasa être de plus en plus décadente sur le plan moral et spirituel. Les gens viennent dans nos églises, ils ne sont plus inquiétés. Hein? Pas du tout. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas la réalité de la salle du trône. Lorsque Dieu est véritablement quelque part, des choses se passent. Alléluia. Les choses se passent. Voilà pourquoi, mes amis, un des objectifs de cet enseignement, c'est que nous réalisions que le seul lieu où il faut être, c'est là, dans le lieu secret. C'est là qu'il nous façonne. C'est là qu'il nous embrase de son amour, de son feu. C'est là qu'il nous envoie comme des témoins de sa résurrection. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Bien commencé. Lui, Ozias, il avait reçu du Seigneur prospérité et puissance. Personne ne pouvait le résister. Et c'est ce qui a fait malheureusement que l'orgueil, la morgue s'empare de lui. Il est dit, en tout cas dans 2 Chroniques, chapitre 26, à partir du verset 16, on n'a pas le temps de lire tout ça, que lorsqu'Ozias fut puissant, son cœur devint hautain. Eh oui, la hauteur, l'arrogance. Il finit par tomber dans le piège de l'orgueil. On pense que désormais, si les gens sont là, c'est parce qu'on parle très bien. On pense désormais que si les gens sont là, c'est parce qu'on a eu à donner 3-4 prophéties. Non. Et petit à petit, on se gare. Et ce qui a provoqué la perte de cet homme, frappé de lèpre dans la maison de Dieu, finalement, il va terminer sa vie dans l'isolement, comme lépreux. Comment est-ce possible? Eh oui, le commencement, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Revenons à Ésaïe. Qu'est-ce qu'Ésaïe voit? Tout est clair. Il voit le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Il ne voit pas un morceau de bois. Il ne voit pas un ange là, sur ce trône. Mais il voit l'Éternel des armées, le roi de gloire, le roi des rois. Alléluia. Et c'est parce que je n'ai pas le temps, peut-être nous le verrons plus tard. Et si vous allez dans l'évangile de Jean 12, c'est lui qui l'avait vu. N'est autre que Yeshua HaMashiach. Il avait vu Jésus. Lisez Jean 12, c'est très clair. Bref, il voit le Seigneur assis sur un trône haut élevé. Encore une fois, la vision du trône revient, n'est-ce pas? Ok. Et sur ce trône, quelqu'un est assis. Ensuite, que voit-il autour du trône? Puisque nous sommes en train de parler de l'environnement. Nous sommes en train de voir quelques éléments qui puissent nous donner une idée sur la manière dont les choses se présentent là dans la demeure de notre Père. Il voit des séraphins, une catégorie d'anges. Est-ce qu'il y a des séraphins? Il y a des archanges? Il y a des chérubins. Là, il voit des séraphins. Il faut savoir que le nom séraphin est dérivé d'un verbe hébreu qui veut dire brûler, moto. C'était donc des êtres brûlants. Ils ne pouvaient pas en être autrement, puisqu'ils évoluent dans un environnement marqué par quoi? Par le feu, par la lumière. Puisqu'ils évoluent dans un environnement, mes amis, flamboyant. Incandescent. Et nous le verrons avec Daniel, que du trône coule un fleuve de feu. Et c'est dans ce feu que le Seigneur baptise ses enfants. Oh, alléluia! Autant Jean-Baptiste plongeait ses pieds, ses jambes dans les eaux froides du Jourdain pour baptiser les gens, autant Jésus se tient dans le fleuve de feu pour baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Mes amis, tout se passe là. Lorsque les 120 sont arrivés à entrer en communion, même si la Bible ne nous décrit pas qu'ils auraient vu quelque chose, mais il s'est passé quelque chose. Pendant ces 10 jours, ils se sont approchés du trône de la grâce, en ayant la parole de Dieu dans leur cœur. Et le 10e jour, le Dieu qui se manifeste par le feu, le 10e jour, celui qui est assis sur le trône, le 10e jour, celui qui est environné d'éclairs, de lumière et de feu, eh bien le 10e jour, celui-là les a pris, les a plongés dans le feu. Et ils se mirent à parler en langue. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Oh, alléluia. Donc les séraphins sont des êtres brûlants. Ils sont brûlants parce que le trône de la grâce est environné de feu. Et comme je l'ai dit avec Daniel, nous verrons. Nous verrons qu'il y a un fleuve de feu qui coule et sort du trône. Et cette atmosphère flamboyante nous parle du feu de la sainteté. du feu de la pureté qui brûle autour du trône et qui fait que ces anges-là, comment le prophète nous décrit en des termes, à partir des catégories que lui connaît, eh bien, sont des êtres brûlants. Ces séraphins crient l'un à l'autre, saint, 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 et l'Éternel des armées. Mes amis, nous avons là un environnement marqué par la sainteté de Dieu, par la pureté du Dieu d'Israël, une atmosphère à la fois brillante et brûlante. Alléluia. Donc, tout dans cette vision, le trône sur lequel est assis le Seigneur, les séraphins qui sont des êtres brûlants, et la et leur proclamation, saint, 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 tout cela, mes amis, souligne que l'environnement qui entoure le trône de la grâce est un environnement marqué par la sainteté, par la pureté. On ne peut pas s'approcher comme ça. Même le prophète, quand il approche cette réalité terrible, il réalise qu'il était un homme dont les lèvres étaient impures. Il réalise la noirceur de son état. Il est du coup habité par ses sentiments d'être vraiment impur, alors qu'il ne se reprochait de rien. Voilà, mes amis, l'atmosphère qui règne quand nous approchons véritablement du trône de la grâce. Eh bien, cette atmosphère nous submerge et nous réalisons qui nous sommes. Et quand on sort de là, laissez-moi vous dire une chose, on sort revêtu d'humilité. Quand on sort de là, le moi est brisé. On ne peut pas sortir la tête haute, la main dans la poche en sifflotant. Non, on sort de là comme un homme mort qui réalise qu'il n'est pas différent des autres, que s'il a pu expérimenter ce qu'il a expérimenté, c'est simplement par la grâce. Il réalise que ce Dieu-là n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut s'imaginer. Il est le Dieu de sainteté, le Dieu de pureté. Alléluia. Mes amis, pour terminer, à une époque où la décadence, la déchéance morale et spirituelle est à son apogée, nous avons besoin d'être en communion avec le Seigneur. Nous avons besoin de nous approcher davantage du trône de la grâce. Car c'est là que nos vies vont être embrasées. Et embrasées du feu d'en haut, du feu de la sainteté, brillant de la lumière du Christ, nous serions alors des véritables lumières dans ce monde qui est de plus en plus plongé dans les ténèbres. Alléluia. Nous serons alors des lampes brûlantes, mais aussi des lampes brillantes, et nous proclamerons le message de l'Évangile avec force et puissance. Et nos vies seront des vies qui interpellent les pécheurs. Quelquefois, on n'aura même pas à ouvrir la bouche. Il suffira simplement qu'un pécheur nous approche pour que sa conscience l'interpelle. Vous voyez? Eh oui, approchons-nous du trône de la grâce, entrons dans le Saint des Saints et laissons-nous embraser par ce feu qui entoure ce trône. Là, c'est une atmosphère, c'est une ambiance flamboyante, brûlante, mes amis, extraordinaire. Il n'y a rien d'équivalent ici-bas. Lorsqu'un volcan se réveille, eh bien, tout le monde prend la fuite, oui ou non? C'est accompagné des tremblements. Et nous verrons. D'autres vont entendre de bruits terribles qui sortaient du trône. Voyez-vous, du feu, de la lumière, tout autour. Et nous verrons qu'il y a aussi des êtres comme les séraphins, des êtres brûlants. Mais nous verrons aussi qui allait racheter ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Alléluia. Acclamons son nom. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous avons besoin de nous imprégner de l'atmosphère qui règne dans ton palais céleste. Nous avons besoin, Seigneur, d'entrer véritablement dans ta présence, besoin de nous tenir devant le trône de la grâce, être en contact avec cette lumière indescriptible, dont l'intensité est au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Oui, nous avons besoin, Seigneur, d'avoir ce contact permanent avec toi depuis le Saint des Saints, car c'est là que tu nous façonnes, c'est là que tu nous modèles, c'est là que tu nous embrasses de ton feu, c'est là, ô Dieu, que tu fais de nous des lampes qui brillent, mais aussi des foyers de feu pour, Seigneur, arrêter ce froid glacial qui répand la vie partout. Oh, merci pour tout. Aide-nous. Merci, Seigneur. Nous voulons, après ce temps, Seigneur, de la parole, te donner ce que nous avons préparé, nos offrandes, ou alors notre soutien au projet de construction du nouveau temple. Merci de bénir toutes ces mains, tous ces cœurs qui vont, Seigneur, donner et que tout cela puisse servir à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Merci.